C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
La pêche aux chaussures. Un matin d'été, au réveil, l'éleveur de porc Hubert Graisse-Cochon constata que ses chaussures n'étaient plus à leur place. Le jour se levait tout juste et Hubert avait l'habitude d'aller nourrir ses bêtes avant de prendre son café. Les cochons réclamaient leur pitance. On les entendait grogner d'impatience depuis leur enclos. Hubert chercha partout dans la maison, mais ne trouva pas ses souliers. Ceux-ci étaient de belles pièces, imperméables, en cuir épais, façonnées par Firmin Boissemel, le cordonnier d'Hurlu Berland. Elles étaient idéales pour aller patauger dans la boue, et Hubert n'en possédait pas d'autres. Agacé, il réveilla Claudine, sa femme.
« Tu n'as pas vu mes chaussures ?»«
Tes chaussures ?»
marmonna Claudine, la bouche empâtée par le sommeil.
« Oui, mes chaussures en cuir. Impossible de mettre la main dessus. C'est tout de même incroyable. Je suis certaine de les avoir laissées à leur place hier soir, juste à côté de la porte d'entrée. »
Claudine se leva, chercha avec son mari les chaussures disparues et au bout d'un moment, se rendit compte que les siennes manquaient également.
« Ah bah ça, c'est pas banal, »
dit-elle.
« Que sont-elles devenues ces chaussures ?»«
Tu crois qu'on serait entré chez nous cette nuit pour nous les voler ?»
demanda Hubert.
« Un voleur de chaussures, à Hurlu Berland. »
sursauta Claudine.
« Tu penses que cela est possible ?»«
Oh, tu sais, de nos jours, on voit tellement de choses étranges. »
N'ayant pas le choix, pestant et râlant, l'éleveur sortit en chaussettes afin d'aller nourrir ses porcs. Heureusement, il faisait beau. D'ailleurs, la pluie n'était pas tombée sur Hurlu Berland depuis plusieurs mois. C'était un été particulièrement sec, ce qui n'empêcha pas Hubert Graisse-Cochon de s'enfoncer dans la boue jusqu'au mollet. Après cela, chaussettes crottées aux pieds, il décida de se rendre à l'échoppe du cordonnier, car il lui fallait sur le champ une nouvelle paire de chaussures. En entrant dans le bourg par la petite route qui passait devant le lavoir et remontait ensuite jusqu'à l'église, il croisa l'éleveuse de chevaux, Joséphine Cœur de Fruit. Tout comme lui, ses chaussures manquaient, et c'est en chaussettes qu'elle marchait dans la rue.
« Toi non plus, Joséphine, tu n'as plus de chaussures !»
s'étonna l'éleveur de porc.
« Non, c'est incompréhensible. Ce matin, elle s'était volatilisée. »
Et elle aussi se rendait d'un bon pas chez le cordonnier afin de s'en procurer une nouvelle paire. Tous deux dépassèrent l'église, s'engagèrent dans la rue principale et, traversant la place de l'hôtel de ville, tombèrent sur Philémon Truissancel, le poissonnier. Stupéfaits, ils remarquèrent qu'ils ne portaient pas non plus de chaussures aux pieds.
« Philémon, vos chaussures sont également introuvables ce matin ?»«
Oui, quelle affaire ! J'attends la livraison de poissons de Gontran Barquembois, »
déplora-t-il en montrant la direction de la mer.
« Et je ne peux tout de même pas ouvrir mon magasin, les orteils à l'air. »
Tous les trois, ils poursuivirent leur chemin vers la boutique du cordonnier. Et ils s'aperçurent, en arrivant devant la vitrine de Firmin Boissemel, que beaucoup de monde s'y trouvait déjà. Et surtout, que personne ne possédait de chaussures. Certains étaient en chaussettes, d'autres en chaussons, ou bien pieds nus. Mais aucun ne portait de souliers dignes de ce nom.
« Au réveil, plus de chaussures !»
se plaignait Hector Boulot-Carré, le boulanger.
« J'ai dû tout de même aller faire ma tournée, et maintenant j'ai les pieds en compote. »«
Pareil pour moi !»
protesta Romuald Coquille d'œuf, le plus gosto des hurlus berlandais.
« Je devais déplacer quelques troncs d'arbres ce matin pour aider Théodore à en faire le boucheron. » Il m'a fallu traverser la forêt sans protection. Résultat, des écharpes pleines les talons.
Où sont donc passées nos chaussures ?
Demanda Paulette Comtébon, l'épicière.
Qui nous les a prises ?
interrogea Alphonse Sucobeur, l'aubergiste. Les questions allaient bon train. On tambourinait même contre la vitrine du cordonnier qui, étrangement, ne se montrait pas.
« Où es-tu, Firmin ? Boisse se mêle. Pourquoi n'ouvre-t-il pas sa boutique ce matin ?»
Devant l'absence de l'artisan, alors que tout le monde avait un problème de chaussures, on arriva vite à la conclusion que l'homme n'était pas étranger à la situation. Personne ne pouvait apporter d'explication, mais une chose était certaine. Firmin Boissemel savait pour quelle raison toutes les chaussures des hurlus berlandais avaient disparu. Et s'il se cachait, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. D'une seule voix, la foule clama
« Firmin ! Firmin ! Firmin !»
Devant l'insistance générale, le cordonnier finit par apparaître. Il ouvrit la porte de son échoppe, sortit sur le palier. Tout le monde remarqua que lui non plus ne portait pas de chaussures aux pieds. Auguste Barbefolle, le bourgmestre, prit la parole.
« Firmin Boissemel, nous sommes ici pour obtenir des éclaircissements sur un phénomène à la fois étrange et embarrassant. Comme tu peux le constater, nous n'avons plus de chaussures. Cela pose un véritable problème. Comment vaquer à nos affaires, travailler au champ, circuler, et là, sans nos semelles ?»«
Je sais !»
balbutia le cordonnier.
« Je suis désolé !»«
As-tu quelque chose à nous dire ?»«
Eh bien, je ne suis pas sûre, mais j'ai bien peur que... Comment dire ?»
L'artisan, très mal à l'aise, se tordait les mains. Le bourgmestre s'agaça.
« C'est tout ce que tu as à nous fournir comme explication ?»
À ce moment-là, une voix se fit entendre de l'autre côté de la place. C'était celle de Gontran Barcambois, le pêcheur. Lui non plus n'avait rien aux pieds pour le protéger.
« Je sais où sont nos chaussures. Je sais où elles sont. »
On se précipita vers le nouveau venu en le pressant de s'exprimer.
« J'étais encore en mer quand cela s'est produit. Le jour ne s'était pas encore levé. Je m'approchais de la côte quand mes gros godillots, ceux avec lesquels je pêche depuis des années, ont quitté mes pieds pour plonger dans l'eau. »«
Ça alors ?»
sursauta le maire.
« Ils ont fait cela tout seuls, sans l'aide de personne ?»«
Oui, vous pensez que j'étais bien embêtée, tout seul sur le pont ruisselant et pieds nus. Malgré tout, j'ai manœuvré mon bateau jusqu'à la côte et là, je les ai vus. »«
Quoi donc ?»«
Les chaussures ! Toutes les chaussures ! Elles avançaient toutes seules, à la queue leu-leu, pour se jeter à l'eau. Plouf, plouf, plouf et encore plouf !»
Toutes nos chaussures à l'eau.
Je les ai vues comme je vois vos pieds nus.
Auguste Barbefolle se retourna vers Firmin Boissemel et le pria fermement d'éclairer les hurlus berlandais.
Si tu sais quelque chose, dis-le maintenant, Firmin.
C'est à cause du cuir et du temps,
balbutia le cordonnier.
Quoi le cuir ? Quoi le temps ?
Eh bien. Il y a quelques années, j'ai acheté un stock de cuir à un vendeur ambulant. C'était vraiment une très bonne affaire. Du cuir bien épais pour un très bon prix. Je n'ai pas hésité. C'était avec ce cuir-là que j'ai fabriqué toutes les chaussures que vous portiez jusqu'à présent.
Et alors, où est le problème ?
S'étonna le bourgmestre.
Le cuir ne provenait pas de vaches ordinaires. C'était de la peau de vache d'eau.
Des vaches d'eau ? Mais je pensais qu'elles n'existaient pas, que c'était une légende.
Oh, si, elles existent. En tout cas, c'est ce que m'a affirmé le vendeur ambulant. Et le problème, c'est que le cuir des vaches d'eau, quand il devient trop sec, retourne dans son milieu naturel pour se mouiller à nouveau. C'est pour cela qu'il n'est pas cher. Il ne tient pas en place. Et comme cet été est particulièrement chaud, eh bien, les chaussures ont manqué d'eau. C'est pour cette raison qu'elles nous ont quittés. Pour aller se tremper dans la mer.
L'œil soupçonneux, le bourgmestre dit au cordonnier.
Et tu le savais, n'est-ce pas ? Tu savais que le cuir que t'avait cédé ce maudit vendeur provenait des vaches d'eau et qu'il risquait de s'en aller un jour ou l'autre.
Oui, j'avoue, je le savais.
C'est donc cela, Firmin. Pour que toi, tu puisses réaliser une bonne affaire, nous voilà tous les pieds à l'air.
Le public se mit à grogner. Quelques insultes volèrent. La foule devint menaçante à l'encontre du cordonnier malhonnête, qui se protégea derrière l'imposante stature du bourgmestre.
« Allons, allons, calmez-vous !»
enjoignit Barbe Folle.
« Nous allons trouver une solution !»
On proposa que Virmin confectionne de nouvelles chaussures pour tout le monde. Mais le temps qu'il trouve et couse le cuir, il y en aurait pour des mois. Les hurluberlandais risquaient de rester pieds nus jusqu'à l'hiver. Gontran Barbe-Cambois fendit alors la foule pour rejoindre le bourgmestre et le cordonnier. De là, il s'adressa à tous.
« Il y aurait bien une solution, »
clama-t-il.
« On pourrait aller repêcher nos chaussures. Que tous ceux qui possèdent une canne à pêche s'y mettent. Trouvons également des barques, des radeaux et tout ce qui flotte. Ainsi, nous pourrons plonger nos lignes et sortir les chaussures de l'eau. »
« Et comme à pas, qu'est-ce qu'on prend ?»
demanda quelqu'un.
« Ça mange quoi, les vaches d'eau ?»
Personne ne le savait. Si bien qu'on décida d'accrocher aux hameçons tout ce qui était bon. Sucreries, pâtés, saucissons, pain aux olives et fromage. L'après-midi même, on envahit les plages pour se lancer dans une folle partie de pêche à la chaussure. Gontran Barbe-Cambois avait ressorti son bateau sur lequel une trentaine d'hurluberlandais avaient pris place, tandis que les autres flottaient sur toutes sortes d'embarcations, allant du petit canot au tronc d'arbre, en passant par des portes et des bidons de lait. Il ne fallut attendre que quelques minutes pour voir les premières chaussures pendues au bout des lignes.
« J'ai une bottine droite, taille 37. »«
C'est à moi. »«
J'ai du 44, pied gauche. »«
Je prends... »
« Ici, un gros godillot clouté, taille 42. »«
C'est le mien. »«
J'ai une paire complète de tout petits souliers du 26. »«
Ce sont ceux de ma fille. »
Cela dura toute la journée. À la tombée de la nuit, chacun avait récupéré ses chaussures, certes gorgées d'eau, mais plus souples et agréables à porter que jamais. Le lendemain matin, à la demande du bourgmestre, tout le monde se réunit sur la place de l'hôtel de ville. Le soleil était déjà chaud, ce qui promettait encore une belle et sèche journée. Auguste Barbe-Folle, radieux, prit la parole.
« Mes amis, chers concitoyens, nous avons vécu hier une étrange journée qui nous a appris deux choses. La première, c'est qu'un jour ou l'autre, on paye les économies au détriment de la qualité. Fort de cette expérience, Firmin Boissemel, notre critiquable cordonnier, m'a juré que dorénavant, il s'engage à ne plus utiliser que de nobles cuirs pour façonner les chaussures.
Hein ?
Hurrah !
Retentit ce qui réchauffa le cœur de l'artisan, car cela prouvait que ses clients l'appréciaient toujours, malgré ses cachotteries passées.
Et la deuxième ?
Poursuivit le bourgmestre.
Et qu'il faut bien faire avec ce que l'on a. Donc, puisque nos chaussures en peau de vache d'eau supportent mal la sécheresse, nous allons dorénavant prendre l'habitude de les tremper une fois par semaine pendant tout l'été. Je décrète donc que le samedi comme étant le jour de plongée pédestre, à savoir que nous nous retrouvons tous à la plage pour patauger dans l'eau, chaussures aux pieds.
Cette proposition plut beaucoup aux hurluberlandais, qui voyaient dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire l'occasion de s'amuser tous ensemble. Depuis ce jour, plus aucune chaussure n'abandonna son propriétaire. Mais ça n'est pas tout. Le cuir dont elles étaient faites, étant régulièrement assouplé par la trompette du samedi, elles durèrent bien plus longtemps que si on ne les avait pas entretenues. Quant aux vaches d'eau, personne n'en vit jamais, si bien que l'on se demande encore aujourd'hui s'ils ont vraiment existé un jour.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
J'ai compris que les chaussures, elles avaient besoin d'eau, du coup, elles ont plongé dans le lac.
Qu'elle était assez farfelue pour une histoire de chaussures. Des chaussures qui s'en vont toutes seules, à la malle. Pourquoi pas, hein ?
Pourquoi pas ?
Bah, les vaches d'eau, peut-être qu'elles existent vraiment, hein ? Qui sait ? Peut-être que juste on les voit pas.
Bah logique, les vaches d'eau, ça vit dans l'eau.
Bah tous les personnages m'ont aussi semblé tous attachants. Mais le maire, il était drôle. Le maire était très drôle. Hubert Grescochon était drôle. Ça va.
Ouais. Oui, c'est la première fois qu'on a déjà lu cette histoire.
Pareil pour moi. Là, bien la première fois. Au final, bah, tout est rentré dans l'ordre à la fin, donc ça va. Avec un petit moment convivial où tous les samedis, ils iront du coup tremper leurs chaussures pour pas que bah, elles soient desséchées. Vivre sans chaussures, j'imagine pas. Ça doit être horrible.
Surtout, ne rien faire. Il y en a tellement peu, des moments vraiment creux, des moments à ne rien faire. Même le mercredi, tout est rempli. La musique, le sport, les leçons, on dirait que les grands ont peur du temps vide. Il me semble que tu n'as pas beaucoup de devoirs à faire en ce moment. Même le dictionnaire est d'accord avec eux. Quand on regarde « à faire », on lit « faire », verbe transitif, troisième groupe. Verbe transitif, on l'a appris en grammaire, ça veut dire « verbe transitif » avec un complément d'objet. On fait quelque chose ? Et si on ne faisait rien ? On se réveillerait dans sa chambre un matin d'été. On entendrait un râteau dehors sur le gravier. Il y aurait des rayons de soleil par les persiennes et une petite poussière blonde. L'oreiller serait tout chaud, mais de l'autre côté, on trouverait un coin d'oreiller frais. Ça serait comme si on devenait la fraîcheur de l'oreiller, comme si on était un matin d'été. On ne penserait pas du tout au reste de la journée. On entendrait juste quelques voix tranquilles qui parleraient loin, à l'autre bout de la maison. On n'aurait même pas envie de prendre une BD. Non, simplement de rester comme ça, avec tout ce soleil dehors et cette fraîcheur de la chambre. On aurait oublié le nom du jour, et on se dirait juste qu'on est quelque part au milieu des vacances, peut-être au début du mois d'août, quand les parents se sont lassés de vous ennuyer avec les rédactions, les problèmes. Et puis on finirait quand même par descendre prendre son petit déjeuner. On trouverait un petit mot sur la table, parce que tout le monde serait parti au marché. Alors on prendrait son bol de chocolat et on irait le boire allongé dans l'herbe, au fond du jardin, près du prunier. Plusieurs fruits seraient tombés dans la petite allée qui court autour du potager. De tout près, les prunes ne seraient pas mauves, mais bleues et roses, avec quelques grains de sucre collés sur la peau. Peu à peu, on s'enfouirait dans l'herbe pour regarder à travers les brins, comme si c'était une jungle immense. Les sauterelles paraîtraient des monstres préhistoriques. On mettrait le bol blanc devant soi et ça serait étrange de le voir fumer là, si chaud et paisible, au milieu des herbes hautes. Après deux ou trois gorgées, on n'aurait plus vraiment envie de boire. On contemplerait seulement cet océan de chocolat au milieu de la forêt tropicale. Le soleil serait plus chaud et lancerait des petits éclats de lumière sur les parois du bol. On aurait l'impression de nager dans cette douleur sucrée, l'impression de devenir son bol de chocolat. On dirait qu'en faisant attention, on pourrait vivre comme ça tous les moments de la journée. On arrêterait le temps sur la balançoire, après le dessert et le long du canal, pendant la pêche. Être, rester, devenir, on l'a appris en grammaire, ce sont des verbes d'état, pas des verbes transitifs. C'est ça, ne rien faire. Être un matin d'été, rester allongé dans les herbes, devenir son bol de chocolat.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Bah, j'ai retenu que maintenant les gens pensent qu'on n'a plus spécialement le temps les mercredis après-midi parce qu'ils ont peur que ça fasse, par exemple, ça fasse un gros vide ou qu'on ait rien à faire alors qu'on a peut-être beaucoup de choses à faire ou alors qu'il faut juste profiter du temps qu'on a libre pour pouvoir profiter de se reposer, regarder la nature, le paysage et profiter des gens qu'on aime et de nos proches. Elle m'a beaucoup plu, elle fait référence à beaucoup de choses, vu que souvent les gens disent « Oh, j'ai pas de temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », mais si on prend juste un moment pour soi, on se rend compte qu'on a le temps d'après de faire beaucoup de choses.
Glisser sur le plateau apéritif. La neige a commencé à tomber le mardi soir vers 7 heures. Ce genre de neige à grands pétales qui donne plein d'espoir. Très vite, elle a couvert le sol et on a eu du mal à s'endormir. Mais à 3 heures, quand on s'est réveillé, la neige tombait toujours. On la voyait bien dans la lueur du réverbère qui était resté allumé. Autour, tout semblait bleu. Là, c'était déjà presque sûr. Et le mercredi matin, à 8 heures, quelle fourrure ! On n'avait pas vu une neige comme ça depuis au moins 3 ans. Sur la grille du jardin, sur le portail, et elle faisait un bourrelet tout rond, tout doux, tout épais. Derrière l'église, il y a une grande descente juste au-dessus de la place. C'est là qu'on est allé avec les copains. Bien sûr, on s'est lancé des boules, mais ce qu'on voulait surtout, c'était faire des glissades. Mimi Foulon, le marchand de jouets, nous a prêté sa luge. C'est une luge ancienne en bois avec du fer sous les patins. Quand on est assis dessus, on est très haut. Ça fait un peu drôle. Mais la neige était trop molle et la luge de Mimi Foulon glissait à peine, en laissant des traces profondes. Alors on est allé chercher des sacs poubelles. Tout le monde dit que c'est super de glisser sur des sacs poubelles. C'est vrai, mais il faut en trouver des grands. Plutôt des 100 litres, ou au moins 50 litres. Sur les sacs poubelles, on va vite, et ça c'est génial. Mais par contre, ça fait vraiment mal aux fesses. La petite sente derrière l'église est pleine de pierres, et on les sent beaucoup. Julien il est parti chez lui, et il est revenu avec une petite luge en plastique rouge qu'on lui avait achetée au sport d'hiver, et qui était un peu cassée. Mais quand Cédric a voulu monter dessus, on a entendu un grand crack sur une grosse pierre. Le plastique avait éclaté. C'est là qu'on a eu l'idée du siècle, le plateau apéritif. Ce petit plateau rectangulaire où on pose des cacahuètes, des amandes et des verres. Les jours à inviter. On a foncé à la maison et on l'a chippé en douce sans rien dire à maman. Le plateau apéritif, c'est vraiment la luge idéale. En se recroquevillant, on peut juste s'y tenir, les genoux contre les épaules. On est au ras du sol, comme sur les sacs poubelles, mais on sent à peine les cailloux. Et puis surtout, ça fonce tellement que ça donne le vertige. Mais avec les mains sur les côtés, on peut se diriger sans problème. Toute la matinée, on s'est prêté le plateau. Dimanche, quand les amis sont venus, maman a dit « Oh, c'est curieux, il est rayé en dessous, le plateau apéritif. »
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
On dirait un peu comme si on retournait en enfance, quand on était enfant et qu'on adorait jouer dans la neige, tout ça, qu'on allait dehors. Quand on était enfant, on n'avait pas les téléphones, alors on était trop jeune pour en avoir, et quand il neigeait, on était content, etc. Du coup, on allait jouer dehors, on s'envoyait des boules, mais on préférait souvent beaucoup plus faire de la luge.
J'ai peut-être pas pris de sac poubelle ni de plateau apéritif, d'ailleurs, je sais pas comment ils ont pu tenir dedans s'il était petit, mais bon... Ils ont de l'inspiration. C'est vrai que quand j'avais pas de luge, j'avais pris un peu comme des plaques en plastique et j'avais glissé, j'avais fait des trous, j'avais mis une corde et j'avais glissé le long de chez moi. Mais j'avais le droit aux trous, aux bosses et ça fait mal aux fesses.
Choisir un parfum de glace. Choisir un parfum de glace, c'est très dur. Évidemment, quand il s'agit de glace à l'italienne, il n'y a que 2 parfums, souvent vanille-fraise. Et en plus, on a le droit de panacher. Là, c'est facile. Et c'est très bon quand même, très crémeux, pas vraiment gelé. En fait, c'est plus un colimaçon de crème fraîche qu'une glace. Parfois aussi, devant la boutique des grands pâtissiers, il y a des parfums extraordinaires. Melon, banane, goyave, kiwi, menthe au chocolat, papaye et même cacahuète. C'est tellement surprenant qu'on peut prendre presque au hasard. D'ailleurs, en général, on est déçu par ce genre de glace. En mangeant la sienne, on ne peut s'empêcher de faire défiler toutes les autres dans sa tête en se disant qu'on aurait dû les préférer et qu'on ne les retrouvera peut-être jamais. Mais ce qui est dur, c'est quand il y a le choix habituel, disons. Vanille, café, chocolat, fraises, framboises, pistaches, castis. Le genre de choix que vous pouvez trouver dans presque toutes les villes. En fait, ce qu'on préfère, c'est les fruits rouges. Surtout quand on est loin de l'été et que ça fait rêver de penser aux fraises ou aux framboises. Mais justement... Choisir ne serait pas choisir s'il suffisait de répéter toujours la même chose. Ce qui est bien et difficile en même temps, C'est cette liberté immense qui vous prend devant les bacs de glace pour quelques secondes. D'habitude, on trouve que café, c'est un peu amer, que vanille, c'est un peu fade. On trouve que vanille et café sont plutôt des parfums pour les vieux, des goûts pâles, avec des couleurs trop sages. Et si on changeait justement aujourd'hui? Une glace vanille-café, ça serait tout à fait nouveau. Ça serait fade, mais d'un fade délicieux, puisque l'on l'aurait préféré au soleil fraise-framboise. Avec une glace vanille-café, on se surprendrait soi-même et, au moins un petit moment, on pourrait faire semblant de trouver ce fade-là supérieur. Seulement, on le sait bien, cette idée résisterait juste quelques coups de langue et après, on se retrouverait avec une longue glace triste pour les vieux. Pistache, ce ne serait pas si mal. Oui, pistache. On n'y fait pas assez attention, d'habitude. Le mot est joli. Il ressemble à un clown. La couleur est très douce. Un vert pâle reposant, qui va bien avec l'Afrique sombre du chocolat. Chocolat pistache. Ça vient naturellement dans la bouche. Et on est sur le point de prononcer ces mots quand soudain, on s'arrête, surtout à cause du chocolat. Le chocolat, on adore ça, mais c'est trop fourré, trop chaud pour devenir vraiment une glace. Alors bien sûr, on va finir au pays rouge. On s'arrête quelques secondes sur l'idée du cassis, mais le mot et le goût sont un peu trop amers, trop acides. Parfois, il y a même un grain noir. Et c'est fraise-framboise qu'on choisit. Fraise framboise, ce petit ce frisson, ce frémissement qui sont bien meilleurs quand on a failli préférer tous les autres parfums. Mais ce n'est pas vrai qu'on finit par choisir toujours la même chose. La preuve, la dernière fois, on a pris une double à la framboise.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Mon préféré, je pense, je dirais la vanille. Ça a un petit goût sucré, pas trop non plus. C'est assez doux comme parfum. J'ai jamais goûté chocolat pistache, mais vu que le chocolat, ça s'accorde, je pense, avec tout, je pense que oui, je suis d'accord. C'est vrai que moi aussi, des fois, je suis devant le glacier, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre? Je peux passer peut-être des heures à choisir. Puis au final, je prends toujours le même. Toujours.
Vous venez d'écouter C'est en lisant qu'on devient liseron. Une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département. Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.